Bienvenue sur le podcast Women Empowerment School. Je m'appelle Mariana Seib et je suis fondatrice d'un réseau de femmes entrepreneurs face-to-face et master coach certifiée en développement personnel. Je conçus ce podcast en pensant à toutes les femmes qui souhaitent accéder à leur puissance intérieure pour créer du changement dans leur vie et entreprendre les projets les plus audacieux. Ensemble, nous allons apprendre à mieux nous connaître, lever nos barrières et accéder à notre intuition féminine pour mener la vie dont nous rêvons profondément. Alors, si tu souhaites développer ton business et créer de l'impact dont tu seras fière, ce podcast est fait pour toi. Et si après avoir écouté cet épisode, tu penses à quelqu'un qui pourra en bénéficier, n'hésite pas à le partager et à laisser un avis 5 étoiles pour augmenter sa visibilité. Alors, prête pour changer ta vie? Allez, on commence! Bonjour à vous toutes. Je suis aujourd'hui avec Charlotte Garnier-Peugeot, qui est executive coach, métier qu'elle pratique depuis 2018 à temps partiel et à plein temps depuis avril cette année. Charlotte a un riche parcours professionnel derrière elle. Elle a co-créé son agence de communication à 30 ans, puis a fait un long parcours de directrice de la communication dans la finance chez HSBC, comme dire comme adjointe, puis chez Demande de Rothschild, dont elle a été la directrice de la communication pour la France d'abord, puis ensuite pour le groupe à l'international. Ensuite, elle devient directrice de la communication de l'autorité de marché financier, tout en poursuivant un parcours de formation au coaching. Un jour, dans un cadre plutôt personnel, nous avons échangé au sujet de mon activité et elle m'a avoué de vouloir changer de voie, peut-être dans 5 ans. Nous avons ensuite entamé 6 mois d'accompagnement de coach et ça y est, elle vient d'annoncer son départ, elle prend son envol dans le monde du coaching. Alors comment ça se fait? On va parler de prise de décision, d'autonomie, de la volonté de suivre sa voie, et surtout quand nous ne sommes pas au début de notre carrière, mais plutôt vers la fin. Bonjour Charlotte.
Bonjour Mariana.
Je suis tellement touchée de t'avoir et merci d'avoir accepté mon invitation.
Ça me fait très, très plaisir.
C'était incroyable notre rencontre parce qu'on n'était pas du tout dans un cadre professionnel. Et pourtant, en quelques minutes, on a compris qu'on a peut-être quelque chose à s'apporter mutuellement. Tu m'as avoué que tu t'es formée au coaching il y a quelques années plutôt, mais que tu as pour l'instant décidé de remettre cette décision de devenir coach à plein temps à plus tard. Et tu vois, ça n'a pas tombé dans l'oreille du tour parce que c'est précisément ce que je faisais. Je commençais ma première promotion pour apprendre aux coachs à vivre de leur métier. Donc, on va en parler. Pourquoi tu as décidé de suivre cette voie? Je sais que ce n'était pas une décision facile, mais juste avant, est-ce que tu peux nous dire comment, dans quel cadre tu as grandi? Qu'est-ce qui a façonné ton système de croyances et tes décisions pour suivre en fait ton parcours professionnel tel qu'il a été jusqu'à aujourd'hui?
Alors, j'ai grandi dans une famille assez classique, avec une mère qui ne travaillait pas et un père qui était chirurgien. Donc, le business n'était pas du tout au cœur de la famille. On ne parlait pas du tout de business. J'avais 2 sœurs. Enfin, j'ai toujours 2 sœurs. Et moi, j'étais la petite dernière, un peu plus gâtée peut-être. Et en fait, on m'a toujours dit qu'il fallait travailler, que les femmes devaient travailler, que c'était la génération de nos mères qui ne travaillaient pas. Mais malgré tout, il y avait un aspect de sécurité, je pense, dans mon éducation. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai un mari avec un bon job, des enfants et aussi un métier pour s'il se passait quelque chose. Mais ce n'était pas vraiment la priorité des priorités. Je pense qu'il fallait que j'ai un métier pour si jamais il y avait un problème et qu'il fallait que je fasse face et puis que ce serait plus intéressant pour moi aussi. Mais bon, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse et joyeuse. Hein, donc, mais pas, on ne m'a pas appris le sens de l'aventure, disons.
Et donc, qu'est-ce que tu décides une fois que tu finis tes études? Qu'est-ce qui dirige tes choix professionnels ensuite?
Curieusement, c'est ma vie privée qui a un peu orienté mes choix professionnels puisque je me suis mariée à 20 ans. Mais la vie a montré que je n'étais pas très douée pour le mariage. Et donc, à 30 ans, j'avais 3 enfants, mais je sentais bien que je n'étais pas épanouie. Et donc, j'ai commencé à travailler à 30 ans avec mes trois enfants tout petits. Et j'ai commencé à travailler dans une agence de communication qui a fait faillite assez rapidement. Et donc, avec le garçon qui dirigeait qui était le directeur sans en être le propriétaire, il m'a proposé de m'associer avec lui pour créer une agence. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'était une aventure super, mais qui n'a pas duré très longtemps parce qu'au bout de 4 ans, j'ai divorcé et du coup, j'ai préféré rejoindre une grosse agence internationale de communication. Puis, je suis devenue DIRCOM adjointe chez HSBC. Et puis là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup travailler. Et que mon job me plaisait beaucoup. Encore quelques années après, on m'a proposé de devenir DIRCOM de Edmond Rothschild en France. Là aussi, j'ai toujours beaucoup aimé la création, en fait, les équipes qui bougent, quelque chose à construire.
Et donc, en fait, tu sors complètement de cette idée que ton métier, c'est quelque chose qui va aider la famille s'il faut. Tu deviens en fait celle qui développe en fait cette posture de c'est toi qui élèves tes enfants en fait.
En fait, c'est moi qui ai élevé mes enfants parce que je me suis remariée et que ça n'a pas marché non plus. Donc, du coup, je me suis retrouvée ensuite avec 4 enfants et pas de mari. Donc, là, c'était plus un choix. Mais par choix, ça ne me venait pas à l'idée que tout devait reposer sur mes épaules. Mais ça s'est trouvé comme ça.
Quand tu avais cette pensée de ça devrait être à mon mari et tout d'un coup je me retrouve à faire ça, comment tu fais face en fait à la vie dans cette posture justement d'avoir un job à grande visibilité, grande responsabilité, les enfants, comment tu vis en fait cette comment tu trouves ta place?
Assez gaiement, je dois dire. Et parce que je pense que quand un problème se présente, tu as le choix soit de te plaindre, soit de prendre les choses à bras le corps et d'avancer. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur des gens extraordinaires avec lesquels je travaillais. C'était pas facile tous les jours, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu le sentiment d'avoir eu le choix et j'ai pas été malheureuse non plus. Enfin, j'étais malheureuse sur le plan privé parfois, mais professionnellement, j'étais aussi assez heureuse de m'accomplir.
Et en plus, à chaque fois, en fait, tu gagnais en responsabilité, tu gagnais aussi en visibilité, jusqu'au moment où en fait, on se retrouve. Et pour moi, ta carrière, elle est faite. Ça y est, il n'y a plus grand-chose à rajouter. Et au fur et à mesure, je te dévoile ce que je fais. Et là, je vois que tes yeux s'allument et tu me parles du coaching. Qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour du coaching alors que tu as déjà eu cette carrière qui t'a aidé à t'accomplir?
Alors en fait, c'est quasiment un hasard, mais est-ce qu'il y a des hasards dans la vie? Je ne sais pas. Mais il y a quelques années, après 15 ans absolument merveilleux chez Edmond Rothschild, ça se passait plus très bien parce que le job de DIRCOM, quelquefois, ça s'use. C'est-à-dire que le groupe changeait beaucoup et j'étais plus la bonne personne au bon job. Donc, c'était devenu un peu inconfortable, donc j'ai décidé de partir. Et je suis partie, j'avais déjà un âge certain, sans job, en me disant, bon, bah, ça, je ne suis plus, j'ai plus envie de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Et ma meilleure amie, qui est chasseur de tête, m'a dit, tu devrais être coach parce que tu as toujours été un manager incroyable, donc tu aimes les gens, bon. Et comme je suis d'une famille de médecins, et mes sœurs sont médecins, mon père est médecin, enfin, était chirurgien, mes grands-pères étaient médecins, faire un métier où on s'occupe des autres, même si ce n'est pas la même chose que, bien sûr, qu'être médecin, je pense que ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai dit, mais oui, c'est une évidence, il faut que j'apprenne le coaching. Et donc, j'ai commencé à me former. Et à ce moment-là, l'autorité des marchés financiers m'a proposé de devenir DIRCOM. J'étais très intéressée par cette proposition, mais j'étais tiraillée entre l'envie d'être coach et l'envie d'aller au ma l'autorité des marchés financiers. Les gens que j'avais rencontrés m'ont beaucoup plu. C'était travailler pour l'intérêt général et plus seulement pour la finance. Et par ailleurs, j'avais encore des enfants qui faisaient des études et donc c'était quand même un petit peu plus rassurant. Et j'ai dit, OK, je viens pour 5 ans. Et je suis restée 6 ans parce que c'était un peu plus compliqué de partir. Et je serais toujours là si je ne t'avais pas rencontrée d'ailleurs. Mais.
Du coup, c'était ta zone de confort, en fait, ce travail.
Oui,
Mais
parce qu'en plus, j'ai fait plein de projets super. Bon, ça me plaisait beaucoup. Et puis, mais j'avais toujours en tête que ma vraie idée, c'était de devenir coach après. Et donc, de toute façon, au bout de 5 ans, je pensais avoir fait le tour du sujet.
Et qu'est-ce qui se passe du coup? On se rencontre et tu m'as du coup laissé avec cette phrase de j'ai très envie de savoir plus de ton programme, mais bon. À mon âge, je ne sais pas si je veux, je sais pas si tu te souviens de cette conversation. Et
Très
au fur
bien.
et à mesure de nos discussions, tu prends la décision et tu suis le programme. Qu'est-ce qui a fait que tu, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a guidé en fait déjà pour remettre ce sujet de coaching à l'ordre du jour?
D'abord, j'y pensais quand même de plus en plus, mais je voyais pas très bien comment transformer en fait cette idée en réalité. Et donc quand je Moi, je crois beaucoup aussi à mon intuition. Et donc, quand je t'ai rencontrée dans notre conversation, ça a déclenché quelque chose de façon immédiate. Et je me suis dit, bon, allez, je lui fais confiance, j'y vais. J'ai fait confiance à l'élan qui m'a porté lors de notre conversation.
J'adore parce que c'est toujours un sujet de la prise de décision que j'ai exploré juste dans le dernier épisode de mon podcast. C'est cette idée que les décisions qu'on prend les plus inconfortables sont celles où on ne connaît pas les résultats. Et à la fois, il y a cette idée de les décisions qui nous changent le plus la vie, c'est les décisions où on ne connaît pas les résultats. Parce que ça veut dire que c'est une décision qu'on prend pour la première fois. Et j'adore ce que tu dis, c'est cette idée de te baser sur un sentiment de joie peut-être, ou de, en tout cas de quelque chose assez vivant du moment quand on en a parlé, et que tu as laissé l'importance en fait à cette émotion que tu as dû sentir au moment de notre conversation. Je trouve ça hyper.
Oui, et puis je mets beaucoup de. Je suis souvent mes impulsions, mais je suis aussi assez raisonnable par ailleurs. Donc, pour être sûre de ne pas faire marche arrière, on a eu notre discussion au mois de juillet. Au mois d'août, j'ai annoncé que je partais au mois d'avril, parce que comme ça, j'étais sûre de ne plus pouvoir faire marche arrière.
Exactement.
Et alors que le programme n'avait pas commencé. Mais je me suis dit, il faut que j'y aille. J'ai un sentiment qu'il faut vraiment que je le fasse. Je veux être coach. C'est le moment. Cette rencontre n'est pas fortuite. Et Mariana va m'aider à transformer ce métier en structurer la façon d'en faire un métier pour moi qui est une grande carrière de dircom derrière moi.
Justement, l'idée de j'ai pris une décision et ensuite je me fais envahir par plein de pensées qui font que je doute finalement de cette idée, de ma décision. Est-ce que tu peux me dire, enfin partager peut-être quelques pensées qui ont fait que tu hésitais de prendre cette décision en fait?
Oui, ben je me souviens notamment au mois d'août d'un dîner où quelqu'un m'a dit, mais il y a tellement de coachs, c'est complètement ridicule, tu ferais mieux de, si tu as envie d'être indépendante, fais du conseil en communication, mais ne fais pas de coaching. Donc j'ai dit, ben non, parce que si c'est pour faire de la communication, je suis très très bien là où je suis. C'est parce que je veux devenir coach et que je pense que je serai un bon coach.
Donc, on peut peut-être déjà appeler une quête personnelle qui se cache derrière cette décision. Et je veux qu'on le développe un tout petit peu. C'est cette idée qu'on prend parfois des décisions qui peuvent être irrationnelles pour les autres, mais qui sont très cohérentes par rapport à nous-mêmes. C'est peut-être cette envie de grandir dans un domaine où on n'est pas encore 100% compétente, pour justement, en fait, tout simplement se développer. Est-ce que tu peux préciser encore plus quelle quête se cache derrière ton envie de devenir coach et
Alors,
de...
il y en a deux. Il y a le fait qu'il y a une chose qui a guidé un petit peu toute ma vie et qui m'a fait quelquefois prendre des décisions précipitées, ou c'est que j'ai vraiment besoin de liberté pour être heureuse. Et donc, je suis prête à affronter des difficultés pour ça, mais la liberté, c'est très important pour moi. Et j'avais envie d'avoir plus de liberté et d'avoir un job qui m'apportait cette liberté. Et par ailleurs, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que d'avoir eu et d'être entourée de médecins, ça m'a quand même aussi donné cette envie d'avoir un métier où on est utile immédiatement aux autres. Mais en revanche, je pense, parce que je l'ai vu dans ma vie, parce que j'ai été coachée, et je l'ai vu auprès des personnes que j'ai coachées, à quel point c'est important, et on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, et notamment les femmes. Moi, par mon parcours, j'ai vécu pas mal de situations qui sont pas toujours faciles, et je pense que avec un coach, c'est plus facile de s'en sortir, enfin de se sortir des situations dans lesquelles on ne devrait pas rester.
Donc déjà, peut-être clarifiant pour celles et ceux qui nous écoutent, comprennent pas encore ce que c'est le coaching, quelle est son utilité. Est-ce que tu peux nous donner quelques résultats que tu as pu observer sur ta propre vie ou dans la vie des autres qui t'ont fait comprendre que c'est extrêmement utile comme métier?
Moi, j'ai été coachée à toutes les grandes étapes de ma vie, en fait, notamment quand je suis rentrée dans des COMEX, dans des comités exécutifs, hein, où j'avais un double handicap, celui d'être une femme et celui d'être une DIRCOM, donc pas le métier qui rapporte de l'argent, mais celui qui en coûte. Donc, forcément, au sein d'un COMEX, il peut y avoir notamment des hommes qui te font comprendre que ce n'est pas vraiment utile, ou que tu n'as pas trop le droit à la parole. Donc, j'ai été coachée par une femme pour ça. Ça m'a beaucoup aidée à m'affirmer. J'ai aussi été dans un conseil d'administration de société cotée où il n'y avait que des hommes et que des ingénieurs. Et moi, j'étais la seule femme. Et donc, je venais de la communication. Bon, ils étaient plutôt très sympas. Mais malgré tout, moi-même, je me racontais l'histoire de qu'ils étaient plus compétents que moi. Et puis, quand j'ai quitté Edmond Rothschild et que j'ai cherché un job, quand je regardais mon CV, avec un coach, le coach me disait, mais en quoi est-ce que vous êtes très bonne? Je disais, bah alors, ce qui est assez amusant, c'est que je disais en management, parce que c'est vraiment ça que j'aimais le plus, où je sentais ma valeur ajoutée. Mais pour tout le reste, je lui disais, non, mais c'est parce que j'ai eu des équipes formidables, j'ai eu de la chance, bon, j'avais du mal à m'attribuer. À m'attribuer mes compétences ou mes qualités. Et c'est en étudiant le coaching et en étant coachée que j'ai mesuré quels étaient mes points forts, mais sur lesquels il fallait absolument que je m'appuie, que je développe, et mes points faibles qu'il fallait que j'accepte et que je pallie par différents moyens, mais sans en avoir honte, parce que tout le monde est fait comme ça, de points forts et de points faibles. Et ça m'a. Maintenant, peut-être avec les études de coaching et le fait d'avoir été coachée, je me sens extrêmement forte pour réussir des tas de nouvelles choses. C'est pour ça que je me lance dans cette nouvelle aventure, mais aussi pour affronter des moments plus difficiles parce que je me sens solide.
J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschool.com/devenir-membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live Zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau, You Are Enough, tout en majuscule.
Mais aussi pour affronter des moments plus difficiles parce que je me sens solide. Et ce n'est pas seulement parce que j'ai un certain âge, c'est aussi parce que Je me connais bien et le coaching t'aide à te connaître et à t'aimer comme tu es, sans complaisance, mais parce que ça, on fait face aussi à ces contradictions, à ces failles. Mais je trouve que c'est une façon formidable de s'accepter et d'avoir envie d'avancer.
Moi, je trouve que ce que tu dis, c'est très juste. Et aussi, pour moi, le coaching, c'est un processus pour désapprendre certains schémas de pensée. Comme par exemple, être une femme entourée des hommes, ça voudrait dire ne pas tout savoir ou savoir moins bien. C'est un concept, c'est une idée qu'il fallait désapprendre. Parce que en tant qu'enfant, on n'a pas cette idée au départ.
Tout à fait.
Les filles qui jouent avec des garçons, elles ne se sentent pas illégitimes tant que quelqu'un ne les a pas expliquées qu'elles savent moins bien. Et donc, il y a cette idée de retour à soi, en fait. C'est pas tellement apprendre de nouvelles choses que se désapprendre les choses qui nous ont éloignés d'être soi-même authentiquement et pleinement.
Moi, j'avais une mère qui demandait à ses gendres de lui expliquer l'actualité, alors que ses trois filles avaient des super jobs. Enfin, mes deux sœurs sont médecins. Et je me souviens notamment d'une fois où je rentrais d'un voyage professionnel au Moyen-Orient et où ma mère m'avait dit, il faudra que je demande à ton mari de m'expliquer le conflit israélo-palestinien. Et je lui avais dit, ben, demande-moi à moi. Ah bon, mais parce que tu saurais m'expliquer? Et ça m'avait rendu dingue parce que, bon, je ne suis pas historienne, je ne suis pas politique. Bon, donc. Mais mon compagnon de l'époque n'aurait pas plus su expliquer que moi, qui en revenait et qui avait des choses à raconter. Donc, en effet, il faut désapprendre.
Exactement, désapprendre pour redevenir soi. Alors, tu vois, je pense que c'est exactement ce qu'on fait aussi dans le programme. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés aussi. On s'est rencontrés parce que tu avais déjà des compétences de coach. En revanche, tu n'avais pas encore la projection comment tu peux quitter un job bien payé et retrouver cette stabilité financière avec le métier d'accompagnement. Et en fait, mon but, c'était de, pendant ces 6 mois, de te montrer des étapes, qu'il y a une structure à suivre et que c'est loin d'être une question de chance ou de talent, mais c'est une question de structure et de connaissance de soi. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots comment ces 6 mois qu'on a vécu ensemble, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Parce que tu avais une projection de pourquoi tu t'es inscrite, mais à la fin de ce programme, tu as pu réellement voir ce que ça t'a apporté. Quelle est la différence peut-être aussi entre les deux?
Ah ouais, elle est énorme la différence parce que je n'avais aucune projection, j'avais juste une intuition. Et j'ai tendance à suivre mes intuitions. Alors, quelquefois, elles sont mauvaises, mais en général, elles ne sont pas si mauvaises. Et donc, ces 6 mois, ils ont été décisifs. Je me suis beaucoup justement fortifiée dans ma pratique de coaching parce que dans ton programme, on coach aussi et on est coaché. Et ça m'a permis de visualiser et de structurer ma vie de coach. C'est ça qui me manquait. C'est-à-dire que je faisais du coaching déjà à temps partiel. Donc, je savais comment ça se passait de coacher. Mais en revanche, devenir un coach, qu'est-ce que ça veut dire? Qui on décide de coacher? Qui on va prospecter, de quelle façon, comment on se présente aux autres. Tout ça, c'est ce que tu as vraiment appris aux 10 femmes de notre programme. Et ce qui était très intéressant, notamment sur le « Ah ben oui, mais il y a tellement de coachs », c'est que on avait des profils tellement différents. Aucune n'est concurrente avec l'autre. Mais en revanche, on a beaucoup à s'apporter. Et en se coachant mutuellement, il s'est passé des tas de choses parce que quand on est en session de coaching, il se passe des choses. On se révèle à soi-même parce qu'on ne fait pas du conseil, on fait du coaching. Donc on aide la personne qu'on coach à se révéler à soi-même et à se donner les autorisations pour faire ce qui est bon pour elle.
Il y a quelque chose dans les autorisations que je vois régulièrement. C'est qu'avant de participer à un programme, on a l'impression qu'il faut montrer à quel point on est forte et qu'on réussit. Alors que dans ce programme, on se montre à quel point on a des doutes, à quel point on a des schémas de pensée qui nous encombrent. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus stimulant à la prise de décision que de voir qu'on passe toutes par ce même doute, par ces mêmes raisons pourquoi nous, on ne peut pas y arriver, les autres, ils y arrivent. Et quand on se partage ce moment de doute, c'est comme ça qu'on devient invincible.
Surtout que moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que moi, quand j'ai vu la première séance où les filles avaient toutes 30 ans, enfin, une qui en avait 50, mais c'est tout. Moi, j'en ai quand même 10 de plus. Et je me suis dit, mais elles vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous raser, celle-ci? Qu'est-ce qu'elle va être inadaptée? Et quand on s'est auto-coaché, on s'est raconté le ressenti. Et elle se disait, oh là là, elle, avec sa grande carrière, elle va nous trouver complètement débiles, je vais pas savoir quoi dire. Et moi, je me disais, mais c'est dingue parce qu'elles sont vachement fortes, elles doivent me trouver complètement ringarde. Bon, et en fait, on s'est beaucoup apprécié et on s'est beaucoup apporté. Et ça fait partie de mon chemin de fortification. Et vers le coaching à plein temps.
Je me souviens d'un moment là, qui m'est venu spontanément à l'esprit. Il y avait une parmi ces coachs qui se formait à être coach pour les mères qui sont complètement débordées. Et je me souviens quand on a eu cet échange intergénérationnel sur ce que ça voudrait dire être mère. Et je trouvais ça très, très enrichissant aussi d'avoir cette discussion de ce que ça veut dire avoir des enfants à bas âge, d'avoir de grands enfants et à quel point on avait à s'apporter mutuellement et donner des autorisations. Et je trouvais ça aussi hyper fort de s'ouvrir en fait à la sincérité. Et je pense qu'en tant que parents, souvent on s'efforce à être parfait aux yeux de nos enfants. Et je trouve que ça crée une tension que l'enfant veut être parfait aux yeux de ses parents. Et dès qu'on trouve cette faille, bah, en fait, ça déculpabilise. Et pour moi, c'était extrêmement enrichissant aussi d'entendre que on ne peut pas tout faire parfaitement et que ce n'est même pas le but. Donc, ce groupe intergénérationnel, quelque part, était d'une richesse absolue. Je ne sais pas si
Ah
tu...
oui, moi j'ai trouvé ça formidable. Mais je te rassure, quand ils seront adolescents, tes enfants, ils te trouveront pas parfaite.
D'accord.
Ils t'aimeront quand même.
Nous travaillons, tu sais, dans ce programme aussi le sujet de la valeur de soi pour ensuite créer son activité professionnelle, bien évidemment apprendre à comment se structurer, mais aussi pour enfin en vivre et créer de ce métier un métier qui nous paye la vie qu'on a envie d'avoir. Quel était l'impact de ce travail sur ta décision de te lancer? Comment tu as vécu en fait le moment quand tu as annoncé que tu allais réellement quitter ton job?
Mais en fait, je pense que j'avais un peu peur, hein. Peur de l'inconnu, peur d'avoir trop suivi mon instinct sans réfléchir beaucoup. Mais en fait, d'avoir suivi ces 6 mois avec toi, ça m'a donné une colonne vertébrale et je me dis, en travaillant, je vais y arriver. Parce que le métier de coach, je suis sûre que, il est fait pour moi, que je peux apporter. Aux personnes que je vais coacher, mais en revanche, comment le faire, ça, je ne savais pas au départ. Et bon, comme ça démarre juste, c'est pas encore parfait, mais je commence à avoir une idée très claire. Et puis surtout, je sais que si je démarre quelque chose et que ça ne marche pas tout de suite, je pourrais essayer autre chose, bouger un petit peu mon positionnement. Enfin, je suis beaucoup plus confiante et sereine parce que je me sens forte.
Est-ce que tu peux nous dire du coup qui est-ce que tu accompagnes aujourd'hui et avec quelle méthode et quel résultat tu veux créer dans la vie des personnes que tu vas accompagner?
Alors, j'accompagne les femmes dirigeantes ou top managers en prise de poste ou celles qui sont à un moment charnière de leur carrière. Et je propose un accompagnement individuel en 6 séances réparties sur 3 mois avec des exercices entre chaque session. Après ces 6 séances, dans la plupart des cas, elles sont réconciliées avec elles-mêmes, en ligne avec leurs valeurs et leurs ambitions. Et j'adapte bien sûr en fonction de chaque situation. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces femmes qui sont en tension permanente parce que elles ont tout le poids de ce qu'on leur a appris, justement. Il y a beaucoup à désapprendre parce que quand elles sont souvent certaines de leurs compétences, mais elles doutent que les autres reconnaissent ces compétences parce qu'elles sont une femme. Et elles ont, si elles ont des jeunes enfants notamment, aussi l'éventuelle culpabilité si c'est un job très prenant vis-à-vis de la famille. Donc y a beaucoup de choses à recaler. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme Harmonie et Leadership, parce que c'est vraiment être un leader inspirant, inspiré et en harmonie dans sa vie.
Et comment toi, tu as vécu le changement de poste et qu'est-ce qui t'a apporté le plus de sérénité, justement, et d'harmonie dans tes prises de poste à toi?
C'est difficile à dire. Alors, en fait, comme je le disais tout à l'heure, moi, je préfère la construction à la routine. Je suis meilleure quand ça bouge. Parce que, et ça c'est le coaching qui me l'a appris, ma plus grande force, c'est la créativité. Oui, c'est la créativité, c'est-à-dire d'avoir des idées. Ce n'est pas la créativité artistique, malheureusement, mais c'est d'avoir des idées. Et donc, je pense que quand tu démarres un poste, tu as besoin d'avoir beaucoup d'idées. Et comme je dis, j'ai été accompagnée sur les grosses prises de poste parce que finalement, ma difficulté, ça n'a pas été tellement mes enfants, ça a plutôt été, parce que comme j'étais seule, j'avais pas tellement la possibilité de culpabiliser, j'avais pas trop le choix. Mais en revanche, c'était le regard des hommes, à la fois en tant que femme et en tant que communicante. C'est contre ça qu'il a fallu que je me batte, et je pense que mon éducation m'a aussi beaucoup aidée, parce que comme j'étais dans une famille avec un père absolument adorable et trois filles, il nous a, je pense, donné confiance en nous.
Mais il y a aussi cette idée que quand on est en prise de poste, je pense que notre énergie va beaucoup dans cette envie de prouver à quel point on est compétente. Et donc, on peut manquer de l'énergie pour créer ce qu'on veut et réaliser notre vraie vision. Et c'est pour ça qu'on a été recruté. Donc,
Moi,
c'est.
je suis très frappée par la tension surtout qu'il y a chez les femmes en prise de poste ou en gros changement, nouvelle équipe, ou on leur donne des fonctions supplémentaires. Et je trouve qu'elles sont très en tension parce qu'elles veulent être parfaites partout. Les hommes, ils sont pas parfaits et ils le vivent pas tous bien, mais souvent, ils le vivent assez bien. Les femmes, elles veulent être irréprochables. Et je pense que le rôle du coaching, c'est pas de leur dire qu'il faut s'en foutre, pas du tout, mais qu'il faut qu'elles puissent vraiment, d'une part, dans leur force, hein, et d'autre part, qu'elles prennent conscience de l'importance de l'équilibre, d'aller se ressourcer quand elles en ont besoin, et de se déculpabiliser de ne pas faire 10 000 fois ce que ferait un homme.
Donc, tu as récemment fait ce coming out. On a tous vu le post sur LinkedIn. On a annoncé ta remplaçante. C'était une grande annonce. Est-ce que tu peux nous dire ce que ton cerveau te disait, ce qui allait se passer dans la tête de tes connaissances pro, perso, avant que tu aies fait ce coming out? Et qu'est-ce que ça a été réellement? Comment ça a été accueilli que cette femme, dire-com d'une grande entreprise, devient une coach?
Oui, il y a eu deux postes. Moi, j'ai fait un poste le jour où je suis partie, et ensuite, il y a eu un poste annonçant l'arrivée de ma remplaçante. Et j'ai eu un nombre de réactions absolument incroyables, très positives, très encourageantes. Bon, alors évidemment, ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est que les gens qui pensent que c'est complètement idiot ont la gentillesse de ne pas le poster sur LinkedIn. Mais j'ai quand même eu beaucoup d'encouragements, notamment de gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps, mais que j'avais croisés dans ma carrière. Qui m'ont envoyé des SMS, des messages privés, des commentaires sur le mur. Bon, c'était vraiment, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de plaisir, et comment dire, ça m'a donné l'idée que j'avais vraiment choisi la bonne voie.
C'est à ce moment, en fait, dans la vie qu'on parfois on consolide ce qu'on est auprès des autres. Moi, j'adorais, en fait, un moment aussi quand chaque fois le changement arrive et pour nous, c'est tout nouveau. On a l'impression qu'on risque nos vies Et il y a des gens qui nous connaissent, qui nous disent, mais c'est une évidence. C'est une évidence, ça te va tellement bien, on te connaît, tu vas tellement bien avec cette nouvelle décision. Je ne sais pas si tu as vécu ça aussi, mais il y a parfois cette idée de, ben, il y a des choses qui sont juste inévitables. Ça va de soi qu'on a eu déjà cette mission dans la vie.
Oui, mais c'est drôle de voir que quand on a basculé, la réaction n'est pas la même. Parce que moi, quand je l'annonçais précédemment, mais je me souviens au tout début du programme, quand je l'annonçais, les gens n'y faisaient pas très attention. Je voyais au fil des mois que je me confortais avec ton programme, que ça devait, et l'échéance se rapprochait, les gens commençaient à accueillir cette idée comme une presque réalité. Et là, j'ai eu énormément de messages me disant que c'était une évidence, et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir.
Un processus intérieur qui est presque énergétique. Quand on a acté quelque chose auprès de soi-même, ça devient sérieux pour nous, ça devient aussi sérieux pour les autres. Et
C'est
quand on
exactement ça.
les autres nous renvoient ce doute qu'on a, cette décision qui est encore peut-être suspendue dans notre fort intérieur.
Oui, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait ça.
Incroyable ça. Écoute, tu fais partie de ces femmes qui sont permises de changer de métier. Qu'est-ce que tu diras à toutes celles qui nous écoutent et qui peut-être se disent, moi aussi, j'ai une nouvelle carrière derrière moi, mais je ne m'y retrouve plus, ça ne me convient plus, ou j'ai une nouvelle quête? Comment se connecter à son intuition et comment accéder en fait à cette capacité à soutenir ses propres rêves à ce stade de vie? Par quoi ça commence?
Déjà, il ne faut pas se désespérer quand on est dans un moment difficile. Et il faut toujours se donner la chance de rebondir et d'être heureux dans l'étape suivante. Et ensuite, pour moi, le plus important, c'est de ne pas se trouver d'excuses pour se laisser tomber dans les sables mouvants du mal-être. Parce on a toujours une petite voix qui nous dit, mais non, mais de toute façon, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Il ne faut pas trop l'écouter. C'est-à-dire que si c'est un mal-être d'une semaine, quelquefois dans un job merveilleux, il y a des moments difficiles. Mais si c'est vraiment lancinant et qu'on a envie, on se sent appelé vers autre chose, il faut se poser, prendre conseil, et puis surtout se faire coacher, parce que justement, se faire coacher, ça n'est pas prendre conseil, c'est prendre conseil auprès de soi. C'est d'avoir une personne en face qui t'apprend à regarder en toi, dans ce que tu as de meilleur, et à te renforcer pour affronter les plus merveilleuses choses de la vie comme les plus difficiles.
J'adore cette définition. Je trouve ça très, très juste. Et peut-être une dernière chose. J'ai l'impression que dans la génération de mes parents, il y a une forte conviction que le coaching, c'est de se regarder son nombril. C'est comme si on allait trop se pencher sur soi pour presque s'apitoyer sur soi. Et quand on commence le coaching, on voit que c'est tout à fait l'inverse. Quelle est ton expérience par rapport à ça? Et peut-être de penser que voilà, c'est un signe de faiblesse ou d'apitoiement se faire coacher. Quelle est ton
Oui,
expérience?
alors ça, c'est, ils pensent, les gens qui pensent ça pensent aussi ça des psys, mais qui sont également très utiles, mais même si ça n'a rien à voir. Mais en fait, je pense que c'est notamment dû au déferlement de livres assez basiques sur le développement personnel. En fait, c'est l'effet inverse, c'est te solidifier pour être en meilleure interaction avec les autres. Notamment mieux comprendre, par exemple, que les gens ne raisonnent pas comme toi, que leurs croyances ne sont pas les mêmes que les tiennes et que donc ça ne remet pas en cause tes croyances ou les croyances de l'autre, mais ça permet d'établir des ponts. Et je pense que tu communiques bien mieux quand tu te connais mieux toi-même. Mais donc pour moi, le coaching, c'est plutôt un outil de bonne interaction avec les autres. Qu'un recentrage sur soi.
Il y a quelque chose, juste pour terminer, je pense qu'il y a aussi dans l'envie d'être leader, c'est de trouver sa juste place. Et dans le coaching aussi, ce que tu proposes, il y a cette idée de sans te connaître, tu ne peux pas réellement manager les autres. Tu ne peux pas réellement apporter quelque chose à une institution si tu ne sais pas qui tu es et où tu vas. Quel est ton avis sur ça?
Ah oui, moi je pense que c'est indispensable, mais les leaders souvent se connaissent assez bien pour ce qui est de leurs compétences techniques, mais ils ont tendance quelquefois à ne pas reconnaître leurs propres angoisses, ils n'ont même ils ont pas envie d'y faire face. Et c'est ça qui crée des tensions, qui crée des dysfonctionnements dont ils souffrent, mais dont leurs équipes souffrent également. Donc je pense que pour bien interagir avec les autres, il faut être en harmonie, il faut être les deux pieds bien calés et surtout ne pas faire semblant. Et il y a beaucoup de leaders qui font semblant d'être quelqu'un d'autre parce que ils pensent que c'est ce qu'on attend d'eux. Et il est très important que eux sachent qui ils sont, ce qu'ils peuvent apporter aux autres, au-delà de la définition stricte de leur job.
J'adore. Merci beaucoup, Charlotte. Merci pour ton temps et ta disponibilité. Merci aussi pour ta confiance. J'ai très, très hâte de voir ce que tu vas créer. En tout cas, moi, ça m'a, je pense, tout autant apporté de t'avoir dans ce groupe, d'avoir cet échange. On se rend compte dans le coaching qu'on est toujours d'égal à égal et qu'il n'y a pas d'élèves et de profs. Il n'y a que des élèves et on a tous beaucoup à s'apporter et
Moi, je
grandir
te
ensemble.
remercie aussi pour ce podcast, mais aussi pour tout ce que tu m'as apporté. Tu pourrais être ma fille, mais tu es vraiment une coach de génie.
Merci Charlotte infiniment.
Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool@gmail.com ou via Instagram womanempowermentschool. À très bientôt.